Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoni.
Chenni Beri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
Insécurité dans la zone office du Niger, quel impact sur les populations? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. De nombreuses personnes perdent la vie dans la zone office du Niger avec des milliers de déplacés enregistrés. Des champs de riz ont été aussi incendiés par des hommes armés ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'explique cette insécurité? S'agit-il de terrorisme ou de conflits intercommunautaires? Quelle analyse des mesures prises pour y faire face? Quelle menace sur la sécurité alimentaire? Le Grand Dialogue de Studio Tamani pose le débat en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Nos invités, Aboubakar Ba, chercheur au Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, Douba Dembélé, journaliste à Ségou au téléphone. Je suis Imran Akilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Douba Dembélé, vous êtes à Ségou. Dites-nous comment se présente la situation sécuritaire de la région de Ségou.
Merci et bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment sur Studio Tamani. En fait, il faut dire que la situation des sécuritaires dans la zone de Niono frappe toutes les communes de la zone de Niono, mais quand on parle un peu de la zone office du Niger, vous savez qu'il y a le cercle de Niono, il y a le cercle de Matina, il y a aussi une partie du cercle de Ségou où il y a une zone agricole qui est surtout la zone de Béwani. En tout cas, pour ce qui est de cette insécurité, il faut comprendre que c'est les 12 communes du cercle de Niono qui sont frappées. Il s'agit de la commune de Djabali, de Dogofri, de Kalasigida, de Mariko, de Nampalari, de Niono, de Pogo, de Seribala, de Sirifila Bundi, qu'on appelle Bimbougou communément, la commune de Sogolo, de Toridaga et de Yeredon Sanyona. Toutes ces 12 communes aujourd'hui sont frappées par cette insécurité dans la zone de Niono ou même dans la zone de l'office du Niger. Et la situation, elle est vraiment critique parce que, il faut le dire, ça s'empire. Au lieu qu'il y ait de l'amélioration, il ne se passe des jours qu'on ne voit des situations qui démontre vraiment que ça ne va pas dans la zone office du Niger et qu'il est aujourd'hui important d'aller vers des actions pour ramener la paix et la stabilité dans la zone de Niono. En tout cas, aujourd'hui, il faut dire que les populations dans la zone de Niono, les 365 443 âmes qui y vivent selon le RGPS de 2009, sont dans la terreur et ont la peur au ventre par rapport à cette situation d'insécurité dans la zone office du Niger.
Alors, vous venez d'écouter Doumba tout à l'heure. Il disait que la situation sécuritaire ne s'améliore pas dans la région de Ségou, que 12 communes du cercle de Niono sont confrontées à cette situation. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette insécurité de la région de Ségou?
Merci beaucoup. Je voudrais remercier le studio Tamani pour cette invitation. Ce que je veux vous dire, si on analyse la situation dans la région de Ségou et spécifiquement dans cette zone qui est surtout essentiellement la zone de Kourmari et qui jouxte un peu le Nampalari et qui est à côté aussi de la zone de Kigiri, c'est-à-dire le cercle de Kemasina, nous avons observé depuis 2 ans une sorte d'exacerbation de la situation avec des exactions. C'est-à-dire, on a vu apparaître 2 groupes qui se sont affrontés, distincts du point de vue de la vision idéologique et même sociale, je parle des groupes armés proches de la Katiba Massina et les Dozo. Ce sont eux qui sont les acteurs en conflictualité dans cette zone. Et je note quand même depuis 2 ans des exactions, des embargos, des arrestations, de l'enlèvement d'animaux. Ça a commencé par Farabougou et en 2020. On pensait que ça allait se limiter, mais la situation s'est amplifiée. Et comme l'a dit tout à l'heure le prédécesseur, c'est les 12 communes aujourd'hui qui sont menacées. Et à ce titre, c'est les populations qui sont victimes des embargos, qui sont dans un contexte d'arrestation et de détention arbitraire, de disparition forcée, de pillage, de dégradation, de destruction de ponts. Donc cette crise, elle devient une crise multidimensionnelle où, du point de vue sécuritaire, les populations sont menacées. Du point de vue humanitaire, il y a des déplacés. Et il va falloir quand même qu'on réagisse et qu'on essaie de voir comment protéger. Mais vu l'absence de stratégie réelle de dialogue, malgré l'action du Haut Conseil islamique, et l'absence d'une vision globale prenant en compte les réalités des groupes armés dits djihadistes proches de la Katiba et leur approche, mais aussi de l'autre côté les belligérants d'Onzo avec leur approche, je pense qu'il y a un problème de droit applicable dans cette zone. C'est-à-dire que les populations aujourd'hui ne savent plus sur quel sein se vouer et où être rattachées, parce que l'accord minima de 2021, c'est-à-dire que je parle de février, bon du moins de mars et d'avril,
nous allons y
a permis ces, de calmer la situation.
À ces accords-là.
Oui.
À vous maintenant, et vous venez d'écouter les deux interlocuteurs. Chacun parle de l'amélioration, de l'aggravation de la sécurité, de la situation sécuritaire dans la région de Ségou. Alors, une insécurité qui conduit également à des incendies dans les champs. Sait-on ce qui provoque réellement ces incendies dans les champs
Ok, merci de m'avoir donné la parole et puis merci à Studio Tamani. Et avant de rentrer dans le fond, donc moi, je vais dire tout simplement en 2019, quand nous on avait commencé à sillonner les 3 zones, à savoir Niono, Massina et puis Djéné. Donc quand nous partons à Niono pour essayer de voir les chasseurs avec qui sont là, pour essayer de discuter avec eux, nous faisons le tour de la ville, nous ne parvenons pas à avoir 2-3 bons chasseurs qui vont parler avec nous parce qu'ils nous disent chaque fois qu'il n'y a pas ce problème de djihadisme ou de terrorisme chez eux. Donc du côté de nos parents peuls aussi, donc si nous partons vers eux aussi dans la même ville de Niono pour savoir est-ce que réellement il y a un problème ici, ils nous disent que non, il n'y a pas de problème ici à Niono. Donc maintenant, le seul problème qui existait là-bas, c'était le problème entre éleveurs et puis cultivateurs. Donc nous, à notre grande surprise, lors de nos tournées, nous avons constaté qu'il y avait eu un certain moment des exactions à Malema. Donc, dans ce village, donc, sur les réseaux sociaux, ça circulait que...
Vos tournées, il s'agit de l'association Ankomali.
Non, c'était une autre association dans laquelle se trouvait Ankomali aussi, avec d'autres associations. Donc maintenant, avec cette tournée, donc, quand il y avait eu des trucs à Malema, donc, on nous avait appelé pour que nous puissions aller faire un constat avec certaines personnalités qui étaient là. Donc après, ils nous ont dit que non, il faut laisser d'autres personnes qui vont aller, qui représentent les communautés peules qui sont là. Donc quand eux, ils sont partis à leur retour, et nous avons vu qu'il y avait un journal qui a apparu sur les trucs, et puis le journal a fait de cette exaction ça une quoi, la une de sa page quoi, donc ça a fait couler beaucoup d'encre. Maintenant, pour revenir à la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des villages qui sont en train des champs qui sont incendiés? C'est dû au refus de certains villages à signer des accords avec les djihadistes qui sont là. Donc maintenant, les djihadistes viennent dans les champs, dans les localités pour demander aux habitants. Donc nous voulons que vous signiez des accords avec nous pour que nous puissions vous garantir une sécurité. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas du tout. Donc ça a été le cas pourquoi Farabougou était même enfermé. Donc maintenant, si vous voyez que les champs sont incendiés, Il y a aussi une absence de l'État, de nos forces de défense et de sécurité aussi, qui est constatée sur le terrain. Donc la population qui est là, qui n'a que comme gardien les chasseurs qui sont là. Donc les chasseurs aussi, eux, ils sont limités dans leur intervention. Donc nous voyons qu'à travers ces différentes choses que les djihadistes aussi, ils viennent la nuit pour essayer de brûler.
Donc vous estimez que ces actes sont des actes terroristes?
Bon, c'est des actes de terrorisme, bon. On peut le qualifier comme ça, sinon moi je ne sais pas si réellement c'est des gens qui sont là pour le djihad, prôner l'islam. Je ne vois pas pourquoi ils brûlent les champs et puis affamer la population. Donc la religion musulmane, je crois que pour que quelqu'un puisse intégrer cette religion, il faut vraiment expliquer la chose à ces personnes. Ce n'est pas par force ou bien d'aller brûler les champs ou bien de tuer les gens qui va faire que les gens vont être dans le groupe des djihadistes.
Doumba Dembélé, vous êtes à Ségou. Savez-vous quelles peuvent être les motivations réelles de ces actes de terroristes?
Alors, d'abord, il faudrait faire la part des choses et essayer de définir ou de présenter comment est-ce que ces conflits ont commencé dans cette zone. Il faut dire, c'est vrai, celui qui vient de terminer là, qui vient dit, ces choses-là ont commencé d'abord par des conflits spontanés entre agriculteurs et éleveurs. Puis après, on a vu des cas de conflits intercommunautaires entre Peul et Bamana. Et c'est après tout ça que des actions terroristes, des groupes armés non identifiés, moi je les appelle comme ça, ont aussi commencé dans la zone. Maintenant, il se trouve que dans ces zones ou dans ces villages où il y a des camps de Bonso, il se trouve que c'est dans ces camps de Bonso qu'il y a surtout ces exactions. Les exactions qui se définissent par le fait de brûler des champs, de procéder à des tueries et autres choses. Cela se définit par la présence de donceaux dans certaines zones. Partout où il y a des donceaux, vous allez trouver que les actions des groupes armés non identifiés y sont concentrées. Ça se définit aussi par le fait que quand on essaie de voir, il y a deux types de donceaux dans cette zone-là. Il y a des donceaux qui étaient là dans les villages, qui essayaient de sécuriser les villages. Mais il faut aussi le dire, il y a d'autres donceaux qui sont venus juste pour avoir la même mise sur les populations, imposer des façons de faire aux populations pour y en tirer profit. Il y a aussi ces donceaux qui sont là-bas. C'est pourquoi dans la zone, vous n'allez pas avoir un répondant direct ou un regroupement où tous les donceaux se reconnaissent dedans. Maintenant, la présence des donceaux dans les villages fait que les groupes armés terroristes viennent pour imposer aussi leur façon de faire à ces donceaux et demander à ces donceaux de plier bagages. Il y a certains aussi qui pensent que les villages où il n'y a pas les exactions, c'est des gens qui signent des pactes avec les groupes armés non identifiés. Je ne dirais pas le contraire, mais il faut aussi dire qu'il y a des villages aussi qui acceptent de signer des pactes avec des donceaux, tout comme d'autres villages aussi qui refusent de signer des pactes avec ces donceaux. En réalité, le problème même, c'est quoi? C'est que la présence de donceaux a aggravé cette situation-là. Vous allez dans la zone de Nyono, c'est une vérité qui est là et c'est vérifiable. Partout où il n'y a pas de cas de donceaux, vous n'allez pas trouver les exactions.
D'accord, merci bien. Restez avec nous. Il parle de deux types de dozos qui sont là-bas, ceux qui sont venus pour sécuriser et ceux qui sont venus pour imposer leur dictat pour avoir profit et ce qui aurait également facilité l'introduction des djihadistes. Est-ce que vous partagez cette analyse de Doumba Dembélé?
Oui, bien sûr, c'est intéressant ce qu'il a dit, parce que la réalité, il faut comprendre un peu la configuration spatiale et l'occupation. Cette zone, quand même, historiquement, il y a des dozos qui ont toujours été des gardiens de la tradition, quand vous lisez Youssouf Tata Cissé, le regretté anthropologue, Youssouf, il explique depuis le Mandé quel est le rôle du dozo. La réalité est des mutations et que nous sommes dans ce qu'on appelle l'utilisation des leviers communautaires ou de soutien des milices locales pour vraiment attaquer, pas forcément pour défendre. Parce que y a des rumeurs, il y a des informations souvent mal vérifiées. Et vous savez, nous sommes dans une situation d'insécurité. Donc il y a les dozos traditionnels qui sont là, il y a d'autres qui sont venus. Et moi je pense qu'il y a une situation insurrectionnelle et une situation contre-insurrectionnelle. La situation considérée comme insurrectionnelle, c'est l'action des groupes dits djihadistes qui, depuis 2 ou 3 ans, ont voulu imposer leur loi, amener la charia et demander à ce que les communautés respectent certaines règles islamiques. Ils ont un corpus politique et juridique sur les bases de l'islam. Et de l'autre côté, des populations, je dis bien qu'ils sont venus, des jeunes qui ont été recrutés, qui pensent qu'il faut réagir, ce que j'appelle la contre-insurrection, par des mesures de protection des villages, par des actions de lutte contre l'injustice ou d'impunité, par des actes de banditisme souvent, et quelquefois de braquage, de vengeance communautaire et sociale. Donc cette situation, c'est vraiment une sorte d'engagement d'acteurs armés qui ont pris le dessus, même sur les conflits au départ de la crise qui était entre des villages. Maintenant, c'est des groupes, des milices locales qui sont en face à des groupes de djihadistes et répartis sur un terrain. Chacun agit. Les groupes de djihadistes s'imposent dans la zone, par exemple, de Molodo. Vous avez vu un peu comment ils ont trouvé l'accord et comment ils ont pu gérer. Et dans certaines zones, ils ont pu le faire. Mais dans les zones où les gens ont refusé carrément, et là, il y a quand même cette confrontation. Bon, c'est la Katiba Massina qui est là-bas. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre. Parce que, vous savez, il y a la Katiba Massina, il y a ce qu'on appelle Dawlat al-Islamia, qui est lié à l'État islamique, et ils ne sont pas là-bas, dans cette zone. Ils ont été chassés depuis 2019. C'est la Katiba Massina qui est liée au JNIM et à ACMI, qui contrôle depuis ce qu'on appelle la boucle du Niger jusqu'aux environs de Bamako aujourd'hui. C'est-à-dire, ils sont dans les alentours de la zone de Koulikoro. Ils sont dans les alentours de la zone de Kolokani qui jouxte la forêt de Ouagadou et ils contrôlent le Sahel occidental aujourd'hui. Ils sont même dans la boucle des Baoulés.
Alors quel est l'impact de la crise sécuritaire sur les activités des populations locales?
Et d'abord, les activités des populations sont réduites à minima. Quand des populations ne peuvent pas les cultiver, et dans un cycle normal, dans une zone économiquement de production comme l'Office du Niger, quand des éleveurs qui sont à côté des villas sédentaires n'arrivent pas à aller à des marchés comme Miono, et que de part et d'autre, c'est des cycles de violence, de vengeance et d'attaque, eh bien c'est l'économie qui est détruite, c'est les relations sociales qui sont détruites, c'est même les conditions de vie des populations qui sont réduites. Donc il y a une situation aujourd'hui d'attaque massive avec des conséquences de militarisation de la zone, d'augmentation des conflits civils et des destructions et même de rente des guerres et qui est amplifiée avec des cycles de violence. Ça, c'est vraiment grave pour un pays comme le nôtre où nous avons des relations communautaires très fortes, où les gens se sont imbriqués. Parce que c'est une zone où cohabitent des communautés bambara très anciennes, dans la zone des Farabougou, Dogofri et autres, et des communautés pastorales qui sont originaires du Nampalari et qui sont là par rapport à un cycle pastoral et qui se sont implantés dans cette zone. Donc voilà une situation quand même qui crée des conditions de cohabitation difficilement et qui amène des destructions qui ont des conséquences sur le terrain économique et sur le terrain du développement de notre pays.
Ba parle de conditions de cohabitation difficiles. Est-ce que vous partagez cette analyse selon laquelle il y aura des conditions de cohabitation difficiles entre les communautés de ces localités-là?
Oui, je le partage parce que vous savez, il y a eu une sorte d'amalgame dans cette zone entre Bambara et Peul, et puis même entre Peul. L'amalgame, c'est quoi? Comme il vient de le dire, il y a 2 types de chasseurs qui sont là. Il y a les chasseurs qui étaient là avant, qui partaient juste pour chasser les petits gibiers et puis aller y chercher les feuilles là, pour des médicaments. Eux, c'est des traditionnels. Mais avec l'avènement, la prolifération de cette insécurité, donc il y en a aussi qui se sont constitués en chasseurs maintenant pour essayer de sécuriser leur village. Donc ils sont venus en appui. Et même parmi ces chasseurs-là, lors de nous tournons, nous avons même trouvé qu'il y a des gens qui sont natifs de certains villages qui étaient dans d'autres fonctions, dans peut-être des grandes villes, Ségou, Bamako ou ailleurs. Là, ils ont préféré abandonner pour aller aider leurs frères qui étaient là. Donc, l'autre problème, c'est quoi? Nous voyons que quand nous, on avait été tout récemment dans la zone de Béwani, donc on a vu un monsieur qui exploite à peu près 132 hectares de terre. Donc, il avait même terminé avec ces trucs au moment où il mettait les engrais. Il y a un groupe de 30 motos qui sont venus et ils lui ont demandé de dégager les lieux d'ici vendredi. Donc il les a dit, mais comment vous voulez que moi je dégage, je laisse mon champ comme ça d'ici le vendredi? Ils disent, bon, nous sommes venus juste pour vous faire le message. Si nous partons, les autres qui vont venir, eux, ils ne vont même pas discuter avec vous, ils vous égorgent et puis ils passent leur chemin. Donc le propriétaire du champ dit, mais moi je suis là depuis 93, je crois. Donc maintenant, les gens là lui disent, il dit aux gens, moi je suis là depuis ce temps, je connais toi ton père, je connais toi ta mère, moi le lait que je consomme ici, au champ ici, ça vient de chez vous. Votre parc se trouve à quelques 1 ou 2 kilomètres du champ. Donc les jeunes lui ont dit carrément que nous, on ne prend pas tout ça en compte. On est en mission, mais qui les a mis en mission? Donc, ils ne parviennent pas à le dire. Et pour sortir de ça, là, il y en a, vous savez, les forces du mal, ou bien je ne sais pas, les terroristes ou les djihadistes, qu'on les appelle, peu importe le nom qu'on les donne là. Ils étaient là, en train de choser les populations, et en les disant aussi, toute personne qui ne laisse pas, qui n'abandonne pas les champs, donc nous venons, nous vous tuons. Nous avons terminé d'occuper l'intérieur. Maintenant, nous avons besoin des villes qui sont au bord du goudron. C'est pourquoi vous voyez à Béwani, ils circulent là-bas comme je ne sais pas quoi. Donc, c'est une voie libre qui est là.
C'est-on ce qui a favorisé cette insécurité dans la région de Ségou?
Bon, vous savez, je peux dire qu'il y a une complicité aussi de certaines populations qui est là. Parce que la population ne veut pas du tout coopérer ou par peur de ne pas être exécutée par ces forces du mal après si l'armée s'en va ou bien s'ils donnent des informations à d'autres personnes. Donc c'est des gens qui sont pris en otage, qui sont sans voix, qui ne peuvent pas du tout s'exprimer. Parce qu'on dirait qu'entre nous, populations qui se trouvent aussi dans les zones, il y a beaucoup de gens qui sont des infiltrés, qui donnent des renseignements à ces forces du mal aussi.
Doumba, vous qui êtes à Ségou, dans la région de Ségou, dites-nous quel est l'impact de cette insécurité sur les activités économiques des populations locales?
Vous savez, on n'a plus besoin que dans la région de Ségou... Nous constatons un impact négatif sur l'économie et le développement socio-culturel parce que la zone autour du Niger ou la zone de Niolo est quand même le poumon de l'économie de la région de Ségou, sinon même du Mali, parce que c'est une zone où on pratique l'agriculture, l'élevage et tout le commerce. Vous savez, Niolo est une zone à grand commerce, et cela s'explique par le fait que c'est une zone qui fait frontière quand même avec la région de Tombouctou, mais surtout avec la Mauritanie qui n'est pas loin de Niolo. Et au-delà de tout ça, vous savez, l'autre l'a si bien dit, c'est une zone de grand pâturage. Et là, il y a le commerce des animaux qui se pratique et qui est vraiment important dans l'économie de la région de Ségou. Les grandes foires qui se tiennent dans cette zone, je vais parler des foires hebdomadaires, Vous savez, il y a des problèmes même pour pouvoir tenir ces foires-là. Ou en tout cas, c'est des foires qui se tiennent juste pour la seule matinée. À partir de 13h, 14h, les gens commencent à plier bagages. Et parlons de l'agriculture. Les gens ne parviennent plus à travailler dans leurs champs. Il n'y a plus de récolte possible comme cela se faisait dans le temps. C'est vraiment inquiétant cette situation qui, il faut le dire, parce que au-delà de cette zone, la région de Sibou vit de culture sèche. Alors que, avec la rareté de la pluie cette année, les récoltes ne seront pas aussi satisfaisantes cette année. Ajouter à cette situation d'insécurité dans la zone optique du Niger, il faudrait quand même préciser que nous parlons de la zone optique du Niger, mais moi je fais le lien avec même la zone optique Ri-Ségou, parce que quand on essaie de prendre la zone de Farako, où il y a l'insécurité totale depuis combien d'années, il y a 4 ans, il n'y a pas d'école dans cette zone. Tout le centre d'animation pédagogique de Farako est fermé. Il n'y a pas une seule école qui fonctionne. C'est les 76 écoles fondamentales publiques dans cette zone, la commune, l'arrondissement de Farako et l'arrondissement de Doura, où il y a l'officerie. Vous voyez, économiquement, socialement et culturellement, même sur le plan éducation, le mal qu'on a aujourd'hui dans la région de Ségou.
Alors, comment la gestion de cette crise est-elle aperçue par les populations?
La gestion, selon moi, elle est pourtant simple qu'il faut aller vers ça très rapidement. Je dis, la gestion de cette crise est simple parce qu'il faut aller à des actions de sensibilisation et de médiation en impliquant les autorités communautaires, les personnalités influentes qui sont dans ces zones-là, qui ont leur mot à dire, les responsables des couches sociales à la base. Parce que c'est ça, il ne s'agit pas de faire venir des délégations des grandes villes, mais il s'agit d'aller avec ceux-là même qui sont dans cette zone-là. Vous allez trouver quand même que dans chaque village, il y a une personnalité qui est là, qui est écoutée, respectée de tout le monde. Il faut impliquer ces gens-là. Aussi, l'autre l'a si bien dit, il faut créer un climat de confiance entre les populations et les autorités administratives. Bon, des autorités administratives qui n'y sont même pas. Donc, il faut aller à la prison des autorités administratives dans ces zones-là et amener un climat
d'accord.
de confiance.
Nous allons y arriver à ces solutions-là. Nous allons arriver à ces différentes solutions. Aboubacar Abba, vous l'avez amorcé, vous avez parlé des accords. Plusieurs accords avaient été signés dans la région de Ségou pour parvenir à une accalmie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé?
Oui, merci. Vraiment, c'est la description du collègue Dembélé, hein, si je crois bien, est très, très intéressante. Et c'est-à-dire, il faut situer dans la chronologie des faits plusieurs étapes. Et d'abord, il y a eu cette situation de menace, c'est-à-dire des groupes dits djihadistes qui on a vu il y a 2 ans dans la zone et après le positionnement des acteurs. Donc, des belligérances jusqu'aux accords. Moi, je crois qu'il faudrait quand même pas cracher sur ces accords, hein, parce que l'accord qui a été trouvé en 2021, en mars et avril, donc l'accord de mars qui a été validé en avril par le Haut Conseil islamique, a permis une accalmie. Et souvenez-vous qu'avant ces accords, le nombre d'animaux, le nombre d'enlevés, le nombre de personnes tuées, le nombre de personnes empêchées d'aller dans les champs, le nombre d'éleveurs qui ont été arrêtés, dont les véhicules ont été arrêtés et disparus, ça crée une situation d'insécurité généralisée. L'accord de 2021 a permis, à mon avis, une situation à minima. Mais le problème global, c'est que les Maliens doivent... Un accord signé avec des groupes des djihadistes ne peut pas être comme un accord comme celui d'Alger, signé à Bamako, où il y a la communauté internationale, où il y a les acteurs. Un tel accord est secret. C'est toujours un accord moral.
Pourquoi ces accords peinent à être appliqués?
Oui, ça peine parce que, et d'abord, les conditions de mise en œuvre de ces accords exige des réalités. Par exemple, le droit applicable. Je donne un exemple. Et l'accord devrait amener chaque groupe à se référer à ses coutumes, à ses réalités. C'est-à-dire les communautés pastorales, c'est-à-dire tout ce qui concerne les peuples, et quand ils ont des problèmes autour des dégâts des champs, des problèmes de délimitation, des problèmes de rapports liés aux ressources naturelles, ils informent les groupes djihadistes qui sont à côté. De l'autre côté aussi, les communautés sédentaires, et Bambara et autres, et font confiance aux Dozo. Donc nous avons deux types de droits qui s'appliquent. Un droit islamique, connu pour les autres, et un autre droit, même s'il n'est pas, islamique, est un droit coutumier et traditionnel. Donc il y a une concurrence, et à un moment donné, il y a eu une rupture entre eux parce qu'ils n'ont pas pu trouver la formule de médiation entre les deux droits. Ça a été un problème. Le deuxième problème, on a dit que ça n'a pas été un accord inclusif avec tout le monde, les élus, la société civile. Mais l'accord ne pouvait pas être parce que les gens ont discuté secrètement en bourse. Le Haut Conseil islamique a eu le mandat. Ils sont partis, ils ont discuté avec des représentants des familles, pasteurs et des familles d'agriculteurs. En bourse, ils ont discuté pendant 4 séances et ils ont trouvé cet accord. Donc, pour moi, il faudrait revoir la confiance entre eux. Il faudrait aussi trouver ce qu'on appelle un minima.
C'est-à-dire est-ce que ces accords sont-ils signés avec les vrais acteurs?
Mais écoute, les accords sont signés avec les vrais acteurs parce que la mission a rencontré les groupes djihadistes réellement sur le terrain. Ils les ont rencontrés et vous les avez appelés ici. Le président, le représentant du Haut Conseil islamique qui était parti, M. Moufa Haïdara, il a fait plusieurs missions avec son équipe. Il a rencontré ces gens. Les Dozo étaient bien représentés et à un niveau le plus élevé. Pendant la deuxième phase, ils ont fait venir un peu les vrais représentants des communautés Dozo. Il y a aussi même les communautés locales, c'est-à-dire les communautés Peul, de Mourahadi et autres, et puis de Ndougouba, qui étaient là et qui étaient présents. Et ils ont discuté. Maintenant, la problématique, vous avez vu, un accord, il y a toujours des difficultés. Même l'accord pour la paix et la réconciliation, vous avez la difficulté depuis 2015, l'interprétation. Donc c'est une question d'interprétation des règles, je dis bien du droit applicable, qui a créé les difficultés. Et puis aussi, et peut-être aussi, certains acteurs n'ont pas respecté certains engagements liés à la préservation de l'environnement, et peut-être aussi au respect des circulations dans la zone, et puis aussi à l'application de la charia. Ça aussi, il faut le reconnaître, l'accord préconisait une application de charia, voile des femmes et autres. Est-ce que tout le monde était d'accord dans cette dynamique? Il y a quand même des difficultés de perception et d'application du droit qui a posé, et très vite, la confiance a été rompue parce que les attaques ont survenu. Et là, je pense que les communautés sont revenues à la case de départ, la conflictualité, les affrontements. Et puis surtout, ce qui est dommageable, c'est le blocage économique dans une zone potentiellement forte pour notre pays.
Mohamed Mamata Touré, Boubacar Ba estime que ces accords auraient été signés avec les vrais acteurs conduits par le Haut Conseil islamique. Alors, les signataires de ces accords sont-ils engagés dans les applications?
Bon, vous savez, le problème, c'est quoi? Quand le Haut Conseil islamique était parti pour la signature de cet accord, comme il l'a si bien dit, avant que l'accord ne soit signé, ils avaient fait beaucoup de tournées en forêt avec les djihadistes. Donc c'est après avoir eu une entente avec eux qu'ils ont convoqué les chasseurs et puis les chefs de village, les religieux qui sont dans les villages. Ils se sont mis ensemble maintenant pour discuter des différentes clauses. Et vous savez, le problème a été quoi? Et moi, la façon dont j'ai vu ça, parce que je suivais ça de très loin, et puis je peux même dire que j'étais en contact permanent avec certaines personnes, et surtout même la population de Farabougou et autres. Vous savez, quand ils avaient été pour discuter avec les djihadistes qui sont là-bas, moi je dirais tout simplement les djihadistes qui étaient dans la zone de Farabougou et qui occupaient Farabougou et puis d'autres petits villages, ils ont discuté avec eux. Mais je me posais toujours la question, est-ce qu'ils sont arrivés au sommet chez Amadou Koufa même? Est-ce que c'est Amadou Koufa qui les a donné le quitus de discuter avec les gens-là et puis de donner la trêve d'un mois? Parce que la trêve qui était demandée, c'était sur un mois. Pourquoi je le dis? Parce qu'au moment où nous étions partis pour demander la paix à Amadou Koufa, à Djéné et puis à Massinaka, nous, on avait été. Ils nous avaient donné une trêve. L'association qui était là en 2019, juillet-août 2019, pour aller discuter avec les chasseurs de Massina qui disent qu'eux-mêmes, Fasso Dambeton,
Donc, beaucoup de gens disent que Faso Tambeton, bon, ils disent beaucoup de choses dedans, mais je crois que nous sommes la seule association qui est parvenue avec, qui a pu amener un résultat quand même. Le résultat, c'est quoi? C'est le vocal de Amadou Koufa que nous avons amené et qui avait dit dans ce vocal qu'il donne la paix et aux chasseurs et à la population de la zone de Djéné et puis de Massina. Donc, cette garantie que Amadou Koufa nous a donnée, juste, c'était sur une trêve de 3 mois. Et ça continue jusqu'à présent à Massina et à Djéné, et les chasseurs qui sont là-bas et les populations qui sont là-bas, même demain, personne ne peut vous dire le contraire, même si les interprétations se fassent autrement. Donc nous, quand même, nous avons pu avoir une preuve d'amener ça. Et l'aménagement nous avait même appelé, ils nous ont dit que le vocal était authentique et qu'ils voulaient d'autres choses. Bon, nous, je m'arrête là. Donc maintenant, la négociation du Haut Conseil, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont discuté avec les gens, ils ont pu avoir une trêve d'un mois pour la libération de Farabou, avant que la population de Farabou ne sorte. Personnellement, moi, j'ai appelé une personne qui était dans la délégation du Haut Conseil et qui était devant eux pour les amener chez les djihadistes là. Je leur ai dit que j'ai écouté sur une radio le maire de Dogofri qui dit que la voie elle est libre, que les gens peuvent rentrer à Farabou comme les gens de Farabou peuvent sortir. Je l'ai appelé, je dis faites beaucoup attention. Vous avez dit que vous avez eu une trêve d'un mois, mais est-ce que vous êtes autorisé à rentrer et à dire à la population de rentrer et de sortir librement comme ça? J'ai dit aux autres membres du Haut Conseil d'organiser une rentrée à Farabou et avec les représentants des djihadistes, les représentants des chasseurs et vous-même, les représentants du Haut Conseil islamique. Et de là, j'ai même parlé avec le chef des chasseurs de Farabou. Je lui ai dit, Koulibaly, il faut faire beaucoup attention. Si vos gens sortent sans que la délégation du Haut Conseil et les représentants des djihadistes ne viennent pas chez vous, vous risquez de perdre beaucoup d'hommes. Donc c'est là qu'ils ont organisé cette rentrée à Farabou où ils avaient été accueillis par la population de Farabou. Et après, quand ils sont sortis, l'autre problème, ça a été quoi? Je les ai toujours demandé de mettre en place un comité de suivi de l'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait un comité de suivi pour qu'il n'y ait pas de dérapage du côté des chasseurs, soit du côté des djihadistes qui sont là.
Mais donc c'est ce comité de suivi. Qu'est-ce qui est écrit dans ces accords-là?
Bon, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose qui était écrit dedans. Donc juste, ils ont donné une trêve d'un mois. Donc maintenant, essayer de voir qui va violer la trêve, qui ne va pas le violer. Donc maintenant, c'était une trêve d'un mois. Bon, ils disaient aussi que les gens là avaient exigé à ce que les femmes, s'ils viennent dans leur zone, de mettre leur habit noir. Et puis aux hommes, bon, ils ont proposé quelques conditions quand même. Les djihadistes, ils ont posé quelques conditions qui avaient été acceptées aussi par les représentants du Haut Conseil islamique et puis les gens aussi qui étaient là. Donc le grand problème, c'est qui a fait que la chose a rechuté. Il n'y a pas eu de comité de suivi aussi. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qui a fait que même l'accord de Farabou a échoué encore? Parce que je crois qu'il y avait à peu près 600 têtes qui étaient rentrées dans un champ. Donc quand les douzeaux avaient pris les têtes là, donc maintenant les djihadistes avaient lancé un ultimatum que si les animaux ne sont pas libérés dans un délai, paf, donc maintenant ça veut dire que... D'accord.
Avant de donner la parole à Douba, il y a Ba qui demande la parole pour réagir.
Oui, non, bon, très rapidement, non, c'est-à-dire il ne faut pas trop spéculer un peu sur cette question. Et il y a eu des négociations, il n'y a pas de décret, c'est un accord moral. Il y a quand même des principes. Au départ, les Dozos ont demandé à ceux que les djihadistes ne viennent pas dans leur zone, et dans leur mosquée, pour venir prêcher. Et je pense qu'il y a eu quand même un minima, une entente que chacun définisse ses règles en fonction des préoccupations des communautés. Ça, quand même, ça a été fait. Et il y a eu des principes dans l'accord, hein. Il y a eu des règles. Maintenant, ce n'est pas un modèle d'accord classique. Quand les gens disent accord, ils pensent que c'est un document qui est écrit 1, 2, 3. Non, ce n'est pas comme ça. C'est des principes qu'ils ont édictés. 1, l'application de la charia dans certains principes. Le voile des femmes. La zakat qu'il faut payer. Et le respect de certaines communautés. Bon, donc, il y a des principes. Voilà un peu le contenu des accords. Moi, je pense que vers la fin, c'est que il y a parmi eux certains qui ne pensent pas appliquer ce que l'autre veut. Parce que entre eux, leur vision n'est pas du tout conforme. Les djihadistes ont une vision sur la base de l'islam, sur la base du djihad, sur la base des chasseurs. Les chasseurs ont une vision communautariste. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas forcément à ce que les djihadistes disent. Ils ne sont pas d'accord. Donc il y a cette contradiction entre eux.
Douba, vous êtes à ce goût. Vous venez d'écouter M. Ba tout à l'heure qui parle des contenus de l'application de ces accords-là, dont il s'agit de l'application de la charia dans certaines zones, la zakat. Est-ce réellement ces contenus-là qui se trouvent dans ces accords-là, vous qui êtes dans ces localités-là?
Moi, je ne me focaliserai pas surtout sur les contenus de l'accord, mais je parle du fait qu'on était quand même parvenu à avoir un climat de paix entre les deux parties. Il y a eu quand même le dialogue entre les deux parties et on s'est mis d'accord sur quelque chose. C'est là la chose importante pour moi. La calme était revenue et il fallait aller à chercher des mécanismes d'installation de cette situation de façon durable. C'est ce qui n'a pas été fait. Il n'y a pas eu des mesures, ou en tout cas des mesures de recherche de paix durable à travers l'acquisition de cet accord-là. C'est ça le problème. Ce n'est pas le contenu qui est important. Un accord, on peut l'améliorer au fur et à mesure. Mais il fallait quand même aller à la pérennisation de cet accord qui a été trouvé pour un mois.
Est-ce à dire que ces mécanismes de gestion de conflits ne sont pas adaptés à la réalité du terrain d'aujourd'hui?
Justement, c'est ça. Voilà pourquoi je disais au départ d'impliquer les acteurs à la base. Vous savez, quand le Haut Conseil islamique est venu, est-ce que vous savez que ça a créé des problèmes au niveau de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation, qui est une structure mise en place pour accompagner la mission nationale d'appui à la réconciliation, qui n'a pas été associée? Il fallait après revenir associer ceci au processus de médiation dans la zone. Il faut prendre l'exemple sur ce qui s'est passé à Matina. L'exemple est là. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas cette situation dans la zone de Matina?
Alors, face à cette recrudescence de l'insécurité dans la zone de l'office, à quoi faut-il s'attendre?
Maintenant, il faut s'attendre à la gravité de la situation si on ne se levait pas et faire face au problème. Il est vraiment temps de faire face au problème et de chercher des solutions de résolution pour que ça ne dégénère pas. Nous voyons la zone autour du Niger, je reviens là-dessus, ce n'est pas que cette zone, c'est toute la région de Ségou et aujourd'hui la zone de Farako, l'arrondissement de Farako et de Doura vivent la même situation.
D'accord, nous n'avons pas assez de temps, nous allons donner la parole aux autres pour faire un peu le tour de table avant la fin de cette émission. Dites-nous, comment établir une paix durable dans la région de Ségou?
Oui, c'est-à-dire la difficulté à laquelle on est tous confrontés, c'est comment nous évaluons aujourd'hui la situation. Et la situation, elle est très complexe, il y a eu une désagrégation de la situation et puis une déflagration et toutes les communes, comme il l'a dit, sont dans cette situation. Moi, je crois qu'il faut qu'on revienne au statu quo entier, en arrière. Un, il faut qu'on voit un médiateur principal. C'est-à-dire, vous savez, hein, tant qu'on n'a pas une stratégie de médiation dans un pays, ça va être difficile. Et disons un peu la vérité, il y a eu plusieurs acteurs qui ont intervenu entre le mois d'octobre 2020 jusqu'à récemment. Et il y a eu d'abord le leader Komane Tanapo qui a été identifié. Il y a eu une réunion avec les ministres à Nounou. Après quelques mois, il y a eu le Haut Conseil islamique qui était impliqué. Après, il y a eu les Erar. Il a parlé tout de suite. Donc, c'est des structures et des individus qui se superposent. Donc, le premier problème, d'abord, moi, je pense qu'une des recommandations à faire, c'est de trouver une stratégie nationale de dialogue sur la base des conférences d'entente nationale et du dialogue national inclusif qui donne mandat sur des principes. Voilà les points sur lesquels nous discutons. Voilà les points sur lesquels nous ne discutons pas. Et il y a un point important. Vous savez, un dialogue s'appuie sur des prérequis.
Très rapidement.
Il faut qu'il y ait d'abord la question du droit applicable, c'est-à-dire que c'est des zones où il y a plusieurs types de droits. De deux, il faudrait qu'on comprenne aussi, est-ce qu'il y aura un débat doctrinal avec ces gens, c'est-à-dire une affiliation doctrinale, parce que ces gens sont opposés. Et troisièmement, il va falloir aussi trouver les réparations qu'il faudrait avec les débats.
D'accord. À 30 secondes, quelle solution faut-il pour la région de Ségou?
Bon, la solution qu'il faut pour la région de Ségou, d'abord, il faut identifier les groupes qui sont là-bas. Si ils sont tous de la Katiba de Massina ou bien si c'est d'autres groupes, parce qu'il y a d'autres groupes éparpillés qui disent qu'ils sont des autodéfenses peuls ou bien qu'ils sont chez eux. Bon, la deuxième solution, c'est quoi? Il faut avoir de bons interlocuteurs. C'est ce problème que nous avons. Donc, tout un chacun veut être dans la réconciliation, mais si on les demande d'aller vers les vrais acteurs qui sont en forêt, on les voit toujours bloqués à un certain niveau. Donc, ils ne parviennent pas à être au sommet. Donc, il y a ce problème d'interlocuteur aussi.
Tout le monde ne peut pas être... Merci beaucoup. Problème d'interlocuteur. Il faut trouver un bon interlocuteur, avoir une stratégie, des dialogues, identifier les vrais acteurs avec lesquels il faut négocier. Ce sont, entre autres, solutions que proposent nos débatteurs qui sont Boubacar Ba, chercheur au Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, Douba Dembélé, journaliste à Ségou. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga. À la mise en nom des régies vidéo, Mamadou Ouattara et Salim Diouara. Ce débat en partenariat avec le programme d'engagement civique a été coordonné par Mohamedou Touré. À demain pour un autre numéro du Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Gmoun.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.